Fréquence Mistral.
Aujourd'hui, je l'ai dit, dans nos studios, on a une étoile montante de l'humour et du stand-up ici à Marseille, mais aussi au niveau national, puisqu'on a Salima Passion. Salima Passion, pour celles et ceux qui la connaissent pas, c'est une humoriste qui a tout. Déjà, qui arrive avec le sourire à venir démonter des petites folies du quotidien sur les réseaux sociaux où plus de 155 000 personnes la suivent aujourd'hui. Je compte qu'Instagram parce que j'ai pas regardé TikTok et compagnie, Facebook et autres. Aujourd'hui, elle joue de partout. Son spectacle, mais aussi sur les plateaux de comédie, et notamment un petit plateau un petit peu connu en France, puisqu'on parle du Jamel Comedy Club, où elle a déjà officié plusieurs fois. Moi, je suis très heureux de voir Salima, qui est arrivée assez récemment dans le stand-up, et se faire propulser sur la scène nationale, parce que c'est l'exemple de ce qui est possible dans le stand-up, c'est-à-dire d'arriver, et en très peu de temps, avec de l'aisance, de l'aura, aller très loin. Donc Salima, c'est un plaisir de te recevoir.
Merci pour cette petite présentation qui est super sympa.
Écoute, je suis content que tu valides cette présentation, Salima. Salima, la question que je commence toujours à poser aux humoristes quand ils arrivent dans ce studio, c'est la même. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as débuté le stand-up ?
Ah ouais, c'est... Je crois que j'ai jamais même répondu à cette question, donc vous avez une exclue aujourd'hui en Israël. Écoute, j'ai débuté le stand-up en cachette. J'étais mariée, j'étais en couple pendant 10 ans, je vivais la belle vie, les voyages, les vacances. Je faisais pas grand-chose de mes journées, mais... J'étais assez bien, mais très malheureuse, malheureuse. Et je cherchais quelque chose, quelque chose qui pouvait me rendre heureuse. Et je sais pas, je crois que je regardais une émission de télé où il y avait des comédiens et je me suis dit, ah, j'aimerais bien essayer ça, tu vois. Et c'est une idée que j'avais au fond de la tête et qui est restée. Puis je me suis inscrite dans un club de boxe, un club de boxe. Et je m'entendais super bien avec mon coach de boxe et je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien faire du stand-up. Et de là à démarrer l'aventure, il s'avère qu'il connaissait plein de personnes dans le stand-up, donc les deux mondes se sont croisés. Et donc il m'a présenté à plein de personnes, il m'a montré que c'était possible, il m'a donné les clés et j'ai commencé mes scènes en cachette, puisque mon chéri à l'époque, je pense qu'il n'était pas trop d'accord.
Il n'était pas sur le projet stand-up.
Il n'était pas sur le projet bonheur. Non.
Donc tu as commencé la scène par un ring de boxe. Hein, si
exactement, okay. J'ai commencé par la boxe et... Je me prenais des coups dans la tête avec les mains, et là je me prends des coups parfois
sur la scène. Ça t'a préparé pour les bides en fait.
Exactement.
T'as compris qu'en boxe, l'important c'est pas de donner des coups, c'est de les encaisser.
Exactement.
Ah bah génial. Et donc du coup, ce club de boxe, on peut le citer, hein, puisque tu en parles souvent.
Ouais.
C'est le Marseille Comédie. Marseille Boxing Club, ouais. Avec une autre star du stand-up qui est dans ce club, si je dis pas de bêtises.
Ouais, j'ai rencontré Alban Ivanov là-bas.
Ouais.
C'est fou, il se préparait pour un film à la base, okay. Sur la boxe, donc coach Sam l'a entraîné, et maintenant il adore la boxe et il est resté.
Ouais, en plus c'est vrai qu'il a un physique de boxeur en plus, trapu comme ça, et du coup lui
d'ailleurs le film Challenger qu'il a tourné vient de sortir sur Netflix.
Ok, on garde ça en tête, donc Challenger avec Alban Ivanov qui a été coaché par un coach donc sportif de Marseille, peut-être qu'on recevra un jour, puisque comment il s'appelle cette personne au Marseille Comedy Club,
Sam, coach Sam,
Marseille Boxing
MBC,
Club
Marseille,
ouais, mais parce qu'il y a le Marseille Comedy Club, donc je reste focus pendant cette interview. Donc Salima, ouais, tu as commencé le stand-up de cette manière, après ça a été très rapidement aussi une bascule sur les réseaux, parce que t'es allé sur les réseaux aussi vite que t'es allé sur scène, non, si je dis pas de bêtises.
J'ai mis peut-être 6 mois, c'était dans un souci de promotion, on va dire. Je me suis dit, attends, si je veux faire des blagues, c'est bien, mais maintenant, il faut que les gens viennent voir mes blagues, tu vois. Je jouais dans une salle vide, c'est pas ouf, quoi. Et j'ai entendu moi, je regardais plein de reportages. Tu sais, quand tu commences, tu regardes un peu tous les témoignages de ceux qui ont réussi aujourd'hui. Et tu te dis, ah, ils ont joué dans des salles vides avec 3 personnes. Non, je veux pas que ça m'arrive. Et aussi...
Toi, t'as dit non, moi, je veux pas faire comme... Je fais pas les 3 personnes avant.
Qu'ils l'ont compris après qu'il fallait se faire connaître, tu vois. Et ça donne donc une visibilité pour mon public et aussi une petite force qui fait que quand t'as des abonnés et que tu débutes, tu fais plus facilement ta place dans ce milieu.
Ouais, bah oui, ouais. Bien sûr. C'est vrai que pour les humoristes débutants ou qui souhaiteraient s'y mettre, c'est vrai que le plus dur au début, c'est de trouver une place sur la scène. C'est déjà de jouer jouer, en fait, tout simplement.
C'est exactement ça. Et c'est dur pour tout le monde.
Oui, oui. Ouais. Oui, bah ça on le sait, on y est passé, on l'a vécu. Justement, Salima, donc, tu es passé de ces scènes où tu jouais donc, des 5, des 10 minutes, et aujourd'hui, tu arrives avec un premier spectacle
ouais.
où le titre, c'est En rodage. Donc, je ne vais pas te demander le pourquoi du titre, parce ouais. qu'on l'a, c'est évident. Pourquoi ce premier spectacle? Qu'est-ce que tu avais, pourquoi tu es passé donc, de ces formats assez courts sur scène à ce format long de 1 heure?
Ben pour garder le parallèle avec la boxe, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si tu t'y connais un petit peu.
Franchement non, mais écoute, tu vas m'apprendre.
Ouais, ben tu as deux... Enfin, je ne sais pas si on dit format, mais tu vois, tu as la boxe amateur et la boxe pro. On va dire que la boxe amateur, c'est sur 3 rounds. Mmh. Donc, tu dois envoyer les coups très rapidement puisque c'est un format très court.
Mmh.
Alors que la boxe pro, tu as 12 rounds, donc tu as le temps de te poser, placer tes coups, tu vois.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment deux sports différents. Et pour moi, jouer dans un comedy club 10 minutes ou jouer un spectacle pendant 1 heure, c'est vraiment deux sports différents. Donc, je me suis dit, il faut que je commence dès maintenant parce qu'il faut que je progresse le plus rapidement possible. Et grâce à mon public, parce que j'ai la chance d'avoir mes salles complètes,
mm-hmm.
Je peux travailler, je peux progresser. Je fais mes petits sparring, on va dire. Je fais mes
sparring. C'est génial parce qu'il faut le valoriser quand même. Hein. Tu fais partie des humoristes à Marseille aujourd'hui qui arrivent à avoir des complets sur complets en remplissant une salle et en venant roder un spectacle. Et c'est vrai qu'on a accueilli un autre humoriste qui a fait à peu près le même parcours il y a un an ici, c'était Julien Vigne.
Et c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a montré que c'était possible en fait.
Ouais.
Moi, je suis très, très admirative de son parcours.
Ben c'est vrai qu'il a montré le chemin, entre guillemets, on a parlé avec d'autres humoristes, à beaucoup d'humoristes, puisque son parcours, c'était une première à Marseille, puisqu'il a réussi très rapidement à convertir donc, sa réussite sur les réseaux avec un spectacle qu'il a joué en hebdomadaire, donc une fois par semaine, en faisant complet dans une petite salle. Mais ça compte quand même comme un complet.
Mais oui.
Et il a pu roder un spectacle, et aujourd'hui, on le voit au silo complet 2 mois avant. Donc, c'est vraiment l'exemple à suivre. Est-ce que toi, tu te vois remplir le silo dans un an, Salima?
Je pense pas que je veux aller aussi vite.
Mm-hmm.
Je me vois dans un an avoir un spectacle qui me rend fière, que j'aurai construit avec réflexion, et je pense que la maturité que j'aurai dans un an, je sais pas si je serai prête encore à proposer ça dans les plus grandes salles. Je préfère attendre d'avoir un spectacle qui me... Mais c'est possible, hein. Peut-être que dans un an je dirais c'est génial, j'adore mon spectacle. Mais je me dis qu'il y a peut-être un parcours que je dois faire qui prendra pas un an.
Oui. Mmh. Oui, écoute, on te souhaite en tout cas d'être là où tu as envie d'être dans un an. Cette ascension, elle est fulgurante, hein, je l'ai dit, c'est aller très vite pour toi, puisque les parcours dans le stand-up, des fois, c'est des dizaines d'années pour arriver là où en ce moment même tu te situes. Comment tu le vis, toi? Tu es bien avec ça? Ça te stresse? Ça te rend heureuse? Comment tu vis tout ça?
Je suis dans le déni. Je suis dans le déni, je sais pas. Des fois, il m'arrive des choses, je me dis, mais non, c'est pas possible. Je les vis, c'est génial, et je me dis, mais... Ça n'est pas arrivé. C'est comme quand j'ai été invitée à l'émission de Kenko Jandy dans un bon moment et qui m'écrit et qui me dit salut, Salima, on t'adore, on aimerait que tu viennes lundi. J'étais super contente, je lui dis ah mais génial, je savais pas qu'il y avait du public, tu vois, parce que je pensais qu'il m'invitait pour être dans le public, tu vois. Tellement je suis dans le déni que je suis une artiste en fait aujourd'hui. Et donc, j'étais super heureuse, mais je ne réalise pas encore, tu vois.
Oui, parce qu'il faut le dire pour les auditeurs et auditrices, à un bon moment, le podcast de Kian Koenji, donc l'acteur qui a fait la série Bref, c'est un podcast qui est écouté dans toute la France. Alors, je ne sais pas combien de milliers ou de centaines de milliers d'écoutes c'est, mais c'est exceptionnel. Et en plus, tu avais un co-invité ce jour-là, qui était quand même un des humoristes les plus famous auprès, en tout cas des humoristes, c'est Haroun, quoi.
Ouais, j'étais super fan. Tu sais, quand tu es fan de quelqu'un, tu fais mine de rien, quoi. Ah non, mais tout est normal.
et l'air naturel.
Tu ne paniques pas.
Moi j'ai vu la photo, je t'avoue que j'étais là, je me disais attends, elle est avec Haroun et Kian Koenji là, ou c'est comment, c'est incroyable. Et ouais, donc du coup tu le vis en faisant un événement après l'autre sans essayer de trop...
Exactement, ouais. Je me focalise pas, je me dis tout ce qui arrive je le prends, mais je le vis pas vraiment, je suis dans le déni quoi, je sais pas, peut-être que je vais réaliser un peu plus tard que oui c'est vrai, c'est aller vite.
Ouais.
Et voilà, mais là, je
prends la chose. Là, t'es dans le tourbillon, quoi.
Ouais, je suis dans le tourbillon.
Eh ben, écoute, c'est magnifique. C'est quoi les défis qu'on affronte à ton niveau, là, en ce moment même, avec ce premier spectacle, avec la demande, je pense, qui doit être importante, le fait que tu joues aussi, il faut le rappeler à tout le monde, mais de partout en France, parce que tu joues pas seulement à Marseille, tu es présente sur la scène parisienne, sur la scène lyonnaise, sur la scène perpignanaise, en fait, c'est simple, ça y est, ma passion, où vous soyez, elle est pas loin, normalement.
Je suis la dame blanche.
Comment tu vises, toi, c'est quoi les défis pour toi? Voilà, de cette ultra-présence, de cette demande-là continue, tu arrives à gérer?
Bah comme je te dis, je suis un peu dans le déni, mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours une petite pression où je me dis, je vais rencontrer mon public, donc c'est des gens qui me suivent et, de par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que bah, quand tu te filmes sur les réseaux sociaux, bah, tu prends ton téléphone, t'es tout seul. C'est assez facile à faire, tu vois. Et si j'aime pas quelque chose, bah, je le poste pas, j'ai juste à l'effacer. Alors que quand je rencontre les personnes sur scène, j'ai toujours cette petite appréhension de me dire, oh, peut-être que je vais les décevoir, peut-être que je vais me rater, peut-être qu'ils vont dire, ah, mais en fait, c'était pas trop ça. Et au final, ça se passe super bien parce que les gens sont super bienveillants, encourageants et qui ont conscience que bah, je démarre le stand-up. 2 ans, c'est très court, tu
oui,
vois.
Oui,
dans
c'est
une
très
carrière.
très court. Dans le stand-up, il faut le savoir, aux États-Unis, ils disent qu'il faut 10 ans pour faire un stand-upper. Donc,
Exactement.
2 ans, tu as encore un baby stand-upper, mais en même temps, tu as un baby stand-upper qui produit beaucoup parce que tu as un spectacle déjà. C'est rare d'arriver à un spectacle,
Oui.
même au bout de 5 ans, des fois, pour certains humoristes.
C'est ça. Et quand je me dis, on me voit avec, bah, justement, aux côtés d'Haroun, on se dit peut-être, bon, bah, s'ils sont là ensemble, c'est qu'ils ont un niveau similaire. Non, non. Moi, je travaille et j'aspire à arriver à des carrières comme ça. Mais voilà, j'ai toujours cette petite appréhension de décevoir et au final, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est génial. Les gens sont contents, bienveillants et je me régale. Et chaque ville, chaque scène, j'ai cette nouvelle peur.
Ouais, bah oui, je pense qu'on l'a tous expérimenté. Même des
Ouais.
fois, la même scène, le lendemain, on a quand même peur
Ouais.
que la machine elle prenne pas, enfin, en tout cas, que la tambouille ne tambouille pas comme on voudrait. Salima, on fait une petite pause musicale. On va
Allez.
s'écouter Sublime de This is la Peste et on reprend juste après cette interview.
Allez, super.
On avait dit le pire, mais aussi le meilleur. Maintenant, tu soupires, et à moins de meilleur. Toutes nos habitudes, ces mouvements d'humeur, tous ces petits calculs. Toutes ces petites peurs, ces coups dans le dos, ces choses cachées. Du coup, c'est moins beau et t'es parti fâché. Parce que j'ai changé, tu veux me punir. Je vais pas me venger, je veux juste me souvenir qu'on était sublime, sublime. Beau, vrai, fort, on était sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Retiens le beau, le vrai, le sublime. Les gens qui t'aiment pas te feront payer le courage d'être toi ou celui d'essayer. Avec perte et fracas, j'ai dû tout changer. Je suis devenu moi car j'étais en danger. La folie aux trousses, la tristesse en renfort. C'est l'amour que je course, mon cœur crie fort. Je veux du sublime, du beau, du vrai, du pur, du sublime. Je t'en supplie. Je t'en supplie, retiens le beau, le vrai, le sublime. Loin du mensonge, loin du mesquin, derrière mes ombres, j'essaie de faire bien. Je le jure, sur ce que j'ai de plus cher, sur ce qu'on a de plus vrai. Un enfant ou une mère, aujourd'hui je suis prêt pour le sublime, le sublime. J'aime quand le ciel est mauve le soir. S'accorde avec ma peine pastel. J'ai tout un tas de causes en moi, mais je n'ai aucune excuse pour elle. Je voulais du sublime, du beau, du vrai, du pur, du sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Retiens le beau, le vrai, le sublime.
Et on revient donc tout de suite après ce tube de This Is. Salima, je voulais parler bien sûr d'inspiration parce qu'on le sait, chaque humoriste a ses inspirations, a ses stars, a des parcours qui résonnent, mais pas forcément que dans le stand-up. D'ailleurs, toi, c'est qui tes inspirations aujourd'hui ?
Bah, pour moi, il y aura toujours une reine et ça restera toujours Florence Foresti.
Ah ouais.
Après... j'adore Romain Fraissinet. Je crois que mon humoriste idéal, si on parle des Français, hein, mon humoriste idéal, ce serait la plume de Romain Fraissinet avec la personnalité d'Edgar Rive.
Ah,
je
oui.
crois que ça ferait un humoriste incroyable.
Ouais, parce que Edgar Rive, il est... Bah, en fait, je pense qu'il plaît aussi beaucoup aux Marseillais parce qu'il est très présent physiquement. Il vocalise, il hurle, il n'a pas peur de prendre la place.
Mais surtout dans le fond de ce qu'il pense, tu vois, quand il parle en interview. Moi, j'aime bien son interview.
Il est
tu
presque
vois, si
aussi
t'arrives
intéressant sur les interviews d'ailleurs que sur scène. Hein.
Ouais. Du coup, la pertinence de ses propos avec le, l'angle de vision du monde de Roman, ça serait un humoriste, un super-héros, je crois. Ça
bah
fait.
Écoute, on passe le message aux deux. Voilà, Roman, si ouais. t'as bien compris, arrête de jouer. Et écrit pour Edgar Rive, c'est ça l'humoriste que ça lui
manque. Non, non, j'adore le spectacle de Roman. Attends.
Ouais, non, faut non, non mais on entend le message. T'as dit à Roman Fraissinet d'arrêter de jouer, d'écrire uniquement pour Edgar Rive. C'est ce qu'on gardera de cette interview. Salima, je voulais savoir, toi, d'où elle te vient cette inspiration ? Parce que c'est vrai que je l'ai dit, hein, t'as une heure, moi je t'ai vu jouer sur des 30 minutes qui étaient excellents, et en plus de ça, parce que tu fais pas uniquement du stand-up sur scène, tu fais du stand-up sur les réseaux, c'est-à-dire que tu partages avec tes abonnés bah, tes regards sur le monde, tes, de l'actualité, des fois des anecdotes personnelles, mais chaque jour, c'est du contenu presque, tu arrives à produire presque tous les jours avec un angle, des blagues. Comment tu fais pour où tu vas puiser ton inspiration ? Parce que t'es quand même très productif par rapport au commun des humoristes, on va dire.
Ouais, je comprends. Bah, moi, je puise mes inspirations dans l'incohérence. J'adore l'incohérence des choses. Je regarde la société avec mon œil et j'essaie de trouver ce qui est incohérent, ce qui me fait rire, ce qui m'énerve, ce qui me procure de l'émotion, tu vois, quelque chose. Et j'essaie de faire des vannes avec et ça marche, ça plaît pas forcément à tout le monde, bah, forcément.
Ouais, bah oui, c'est vrai que t'as des haters et des haters comme beaucoup d'humoristes, mais bon, ça
mais
fait partie aussi
c'est
du
le
jeu.
Signe. Ouais, ouais, c'est, on peut pas plaire à tout le monde, sinon. C'est quoi qui disait Rémi Gaillard ? C'est en faisant comme tout le monde qu'on devient n'importe qui.
Non, ouais, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui.
Bon, bah, ça n'a rien à voir.
Et bah, écoute, je pense que tu vas énerver des gens en ce moment, moi-même à la radio, qui sont là. Mais qu'est-ce qu'elle dit sur Rémi Gaillard ? Oui, mais bah, c'est vrai que bah, pour encore faire le parallèle avec Julien Vine, hein, mais moi je me rappelle très bien son spectacle, et en tout cas ses débuts sur les réseaux, il expliquait, il disait avec tous les gens qui m'aiment, j'arrive à remplir la Divine Comédie, avec tous ceux qui me détestent, je pourrais remplir chaque soir le silo. Au final, il finit par faire le silo, mais c'est vrai qu'il y a cette dualité, en fait, quand on veut faire rire les gens, on finit toujours par énerver des gens sur les réseaux et en fait même en dehors de point de vue ou d'émotion, je trouve que sur les réseaux, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, même si on parle d'une marque de balai ou d'éponge, on va réussir à énerver quelqu'un, c'est quand même quelque chose de magnifique, non ?
Oui, ça crée de l'émotion. Non, moi, j'adore les émotions. Et puis, j'ai tendance à penser que c'est vrai que sur les réseaux, bah, les haters, tu les vois parce qu'ils s'expriment. Mm. Mais les gens, je pense qu'ils sont ultra majoritaires dans tout, chez tout le monde, à soit être indifférent, soit à nous aimer. Mm. Moi, par exemple, j'adore plein d'artistes. Mais je prends, c'est vrai que je ne prends pas le temps de commenter, d'envoyer des messages, alors que je pense qu'un hater, tu vois, il a l'énergie de le faire.
Et tu réponds des fois aux haters ou pas ?
Jamais.
Ouais.
Sauf si c'est pour faire des vannes en vidéo.
Ouais, tu ne fais pas des
trucs
d'énergie.
Tant qu'à faire, je rentabilise.
Salima, bon, on parle quand même de scène aussi. Toi, c'est quoi ton plus beau souvenir sur scène ?
Pour l'instant, je pense que j'ai dû jouer 5 fois mon spectacle entier, donc ce n'est pas énorme comme expérience. Mon plus beau souvenir... En fait, la première fois que j'ai joué mon rodage, j'étais tellement stressée. Pendant des semaines, je vomissais, j'avais envie de parler à personne. J'étais d'une méchanceté avec mon entourage. C'était
Enfin, en tout cas, pas avec les autres humoristes. Parce que je t'ai vu avant, moi, je me rappelle que t'étais pas bien, mais t'étais pas méchante non plus.
Oui, mais parce que, tu vois, quand t'es énervée ou stressée, t'as tendance à être plus dure avec les gens très très proches de toi. Et tu fais mine de rien avec les autres.
On décharge sur ses proches, hein.
Ouais, du coup, la première fois que j'ai joué mon spectacle, j'étais très stressée, j'ai eu des ratés, j'ai eu des personnes dans le public un peu bourrées qui m'ont déstabilisée. Bon, c'était très dur et j'ai paniqué. Et du coup, je pense que mon meilleur souvenir, c'est la deuxième fois où j'ai réussi à être détente, à être en connectée avec le public, à vraiment rire, à tenir mon texte jusqu'au bout, à être fière à la fin de ce que je propose et à vraiment passer le moment avec eux. Et c'est là que je me suis dit, oui, en fait, c'est bon, je suis à ma place. Tu vois, que tu réalises un petit peu, bah, ça fait du bien. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup encore d'anecdotes sur scène. Mais...
Non, mais c'est intéressant, surtout qu'on peut le mettre en parallèle avec ton parcours où tu racontes qu'avant, pendant 10 ans, tu as été mariée et que tu vivais, mais que tu sentais au fond de toi qu'il y avait quelque chose qui ne vibrait pas. Et là, du coup, là, tu te sens à ta place et tu sens que tu vibres.
Ouais, exactement.
Et écoute, ça fait plaisir. Ça, c'est un truc d'énergie de hippie. Ça fait plaisir de savoir que Salima Passion est une hippie. On va se laisser faire une petite pause musicale avant de revenir. On va écouter Luigi Monde.
Allez,
tu connais
génial.
Luigi ou pas ?
Oui, j'adore.
Ah bah écoute, on se met ça tout de suite.
Je connais pas du tout.
Là, on t'a entendu encore.
Ah merde!
Mmh. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Chaque jour que Dieu fait, je remercie le monde de m'avoir laissé tomber. Abandonné comme une bête sauvage blessée, je regrette le temps que j'ai passé à me négliger, m'ignorer, m'excuser d'exister. J'ai payé de mon sang toutes les richesses et les merveilles de vos continents. Je le fais avec mon cœur, mes couilles. Je ne prends pas de cours de chant. Je ne prends pas de cours de chant. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. Parmi les grands de ce monde. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri chaque partie de mon corps. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri chaque partie de mon corps, chaque partie de mon corps. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes.
Et donc ce son de Luigi, un son que tu connaissais bien donc, Salima.
Je me suis fait griller parce qu'il n'avait pas coupé le micro. Vous connaissez mon vrai visage.
On vient de se rendre compte que Salima est une personne très honnête.
C'est plus de la politesse, tu vois. Oui. Tu connais? Oui, bien sûr.
Oui. Tu m'as boucané comme une Marseillaise, c'est ça?
Exactement.
D'ailleurs, tu viens de Marseille, Salima? J'ai passé une question que je n'ai pas posée.
Oui, je viens de Marseille. Je suis née dans le 5e arrondissement de Marseille. J'ai pas très l'accent, mais.
Oui, c'est vrai.
Ça m'en revient, là.
Ça revient que quand t'es à Paris, donc pour bien leur rappeler que t'es pas d'ici.
Non, ça vient que quand je suis énervée.
Ah ouais, ok, ouais, bah, je pense que ça, c'est beaucoup c'est de gens. Souvent l'accent
du coup,
étranger aussi.
L'accent. Genre.
Salima, est-ce que tu peux me dire, toi, ce que tu penses? Alors, attention, c'est une question conceptuelle, mais qu'est-ce que tu penses du rôle de l'humoriste dans notre société, aujourd'hui, hein?
Moi, je pense. Il y a un rappeur qui disait qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Je sais plus c'est qui, tu sais c'est qui?
Je dirais que c'est Sniper, moi, ou Medine, j'ai un doute, mais...
Okay. Je sais plus.
Écoute,
mais j'aime bien cette phrase, tu vois, parce que pour moi, l'humoriste... J'ai du mal à me dire que c'est possible d'être humoriste en racontant que sa vie, tu vois. Ou peut-être... Enfin, je pense qu'on ne peut pas parler à beaucoup de gens, on ne peut pas faire passer beaucoup de messages en parlant de... Tu sais, des fois, il y a certains humoristes que je peux comprendre, mais qui ont un certain égocentrisme en se disant... moi, les gens vont être intéressés par moi, tu vois, par le fait que... Je sais pas. Mais je me suis remis en question, là, quand j'ai fait le podcast avec Haroun, il disait que quelqu'un lui avait dit, c'est comme dans un mariage, tu vois, il y a des gens qui... Tu peux pas mettre du Jacques Brel dans un mariage. Y a de l'humour pour tout le monde, en fait. Je peux comprendre maintenant, aujourd'hui, que y a des humoristes qui peuvent faire rire avec leur vie, je peux le comprendre.
Ouais, surtout quand il y a des humoristes qui sont des grands vénards dans le monde de l'humour en ayant passé des grandes épreuves, type une maladie ou un handicap. Ceux-là, c'est grand chanceux. On pense à Luc. Hein,
Oui. Mais du coup, il peut parler de lui, mais ça va quand même parler à tout le monde parce qu'en fait, ça parle du handicap. Tu vois, c'est quand même un sujet large. Maintenant, si tu parles de tes cheveux ou de comment t'aimes ton café, bon.
Ouais.
Tu vois. Non, Luc, bah, j'adore Luc. Je pense
non,
très,
le salut
très...
longue moitié, Luc Montigo, qui va faire une traversée en kayak, en canoë là-bas.
C'est
pardon.
Fou. Hein.
Il y a un stand-upper qui porte un handicap qu'il assume complètement sur scène et avec qui il vient faire rire beaucoup de monde. Et en plus de ça, ouais, il fait des épreuves sportives dingo, quoi.
Oui. Ouais. Et j'adore parce qu'il n'est pas dans la victimisation. Il est vraiment. Il est trash, en fait.
Ah ouais, il est dans l'humour noir à fond. Et ouais. C'est vrai que pour les clients de l'humour noir, c'est quelque chose de.
Et ça fait du bien d'en rire comme ça, tu vois. Ouais. C'est
avec lui, en plus.
Avec lui.
Ouais. Pas de lui, mais avec lui. Ouais. Ouais, non,
j'ai fait un podcast avec lui. On a beaucoup plus ri que discuter, quoi. Que travailler.
Ouais, parce qu'il est starboy aussi. Hein. Il a une énergie, moi je trouve qu'il arrive à faire des blagues où on s'y attend pas à chaque fois et on est là waouh. Wow.
Ouais, mais il peut, tu vois.
Ouais,
c'est
il
génial.
Peut les faire, ouais. C'est
parce qu'on vit dans un monde où des fois, moi je pourrais pas faire les blagues que Luc fait parce que je suis pas atteint, enfin je suis pas handicapé. Quoi.
Ouais, bah tu peux faire semblant de boiter et les faire. Hein,
si ouais, je suis en train d'hésiter à changer de DA. Mais donc ouais, pour moi en tout cas, mes humoristes préférés c'est ceux qui prennent des positions, des risques, qui parlent de choses qu'on a envie de dire et que personne ne dit, ça fait du bien, tu vois. Ah, il y a quelqu'un qui pense comme ça, comme moi. Ça fait du bien. Mais d'en rire, ça fait du bien.
Et si tu n'étais pas humoriste aujourd'hui, Salima, tu penses que tu ferais quoi? Ça serait quoi, là, ton activité si... Attention, hein, je parle d'une activité rêvée, pas d'une activité...
Légale.
Non plus.
Je pense que je serais très malheureuse et que, comme avant, je commencerais quelque chose... quelque temps et je changerai encore et encore de domaine d'activité. Je pense que j'ai dû avoir 15 métiers avant d'être humoriste. Et tu sais, tu commences quelque chose, t'es tout content, t'es tout passionné au début, et puis tu te lasses, t'es malheureux, et t'as envie de changer, encore et encore. Parce que tu cherches en vérité ton bonheur. Et là, je l'ai trouvé dans le stand-up. Donc, ouais, je pense que je serais très malheureuse et coincée dans mon malheur si j'avais pas trouvé le stand-up aujourd'hui.
Je te rejoins à 100% là-dessus.
Hein. Tu vois.
Ah ouais, mais je comprends. Bon, j'ai exactement le même parcours d'avant de changer, de me lasser très vite de tout ce que je faisais.
Ouais.
Et quand j'ai commencé le stand-up, je me rappelle ma vraie première peur, c'était pas de est-ce que ça va marcher ou pas, c'était j'espère que je vais pas arrêter d'aimer ça parce que je trouvais ça tellement génial.
C'est vrai, c'est
j'avais
vrai.
Peur de me lasser du stand-up. Là, ça fait 4 ans, je me dis bon, ça y est, je commence à être sûr que j'aime vraiment ça. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais peur de me dire encore une. J'espère que ça va pas être encore un truc qui m'excite au début et qui va disparaître juste après. Quoi.
Ben, tu peux avoir ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des. Tu sais, c'est comme la motivation. Des fois, t'es motivé. Après, bon, t'as un petit coup de mou. Ben, j'ai eu ça dans le stand-up. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont ça. Au début, t'es tout content et après, tu commences à douter. Et tu commences à rentrer dans une phase un peu de dépression, tu vois. Et c'est là où mon coach, qui est devenu mon manager officiellement aujourd'hui, il m'a expliqué la différence entre la motivation et la discipline. Et une fois que t'arrives à mettre la discipline dans ta vie, putain, ça change tout, quoi.
Et on a Jean-Alain Urani, qui est préparateur mental et coach sportif, qui vient régulièrement chaque semaine ici pour faire des chroniques. Et justement, il en parle énormément de cette différence entre motivation et discipline, en expliquant que la motivation, elle dure 3 semaines, la discipline, elle peut durer toute une vie. C'est-à-dire, en gros, de prendre des habitudes, de les tenir et de rester régulier, c'est la seule manière de vraiment atteindre quelque chose. Là où la motivation, elle peut durer 3 mois, 6 mois, 3 semaines, elle va vite à un moment tomber et ça sera terminé. Alors que toi, avec ta discipline, justement, c'est quoi ta discipline aujourd'hui pour continuer à travailler, produire?
Coach Sam, donc, on le rappelle, qui était mon coach de boxe et aujourd'hui mon manager. Et en fait, il me manage comme un sportif de haut niveau. Quoi.
Okay.
On a calculé ensemble les besoins de sommeil que qu'il me fallait, tu vois. Donc, 9 heures de sommeil.
Ah ouais, pas mal.
Obligatoirement d'avoir de sommeil pour que je puisse fonctionner.
Grosse dormeuse, du coup.
Très grosse dormeuse. On a hésité entre 10. Hein. Mais avant, je dormais très mal. Je me couchais très tard, 5h du matin. J'avais une hygiène de vie catastrophique. Donc là, je fais 9 heures de sommeil. Je mange sain parce que c'est mon carburant. C'est important. Je mange sain. J'écris tous les jours, obligatoirement, même si parfois, il n'y a rien à en tirer. J'écris tous les jours. Je fais une vidéo par jour. Vidéo par jour, écriture. Sport, je boxe, du coup je boxe. Et le sport, c'est... Depuis que j'ai mis le sport dans ma vie, c'est... mentalement, ça change tout, quoi. Ah, je me sens une personne différente. J'ai l'impression d'être enfin une adulte à 32 ans, là.
Ouais. Bah, c'est vrai que le sport, il permet d'avoir des hauts et des bas beaucoup moins bas et des hauts tout aussi hauts. Donc, ça permet de limiter, en fait, le down. Ça garde l'esprit assez alerte, quoi.
Ouais. Et après le sport, t'as cette petite dose d'endorphine, là, qui fait du bien.
Exactement,
ouais.
Qui
t'as cette petite dose un peu tous les jours. Ouais, je suis une droguée. Je suis une droguée. C'est ça que j'essaye de dire. Ouais.
Mais écoute, c'est une drogue, en tout cas, magnifique, puisque le sport, ouais, c'est quelque chose, nous, en tout cas, qu'on promeut énormément à Fréquence Ministrale, puisqu'effectivement, pour toutes les personnes qui vont mal, ça veut pas dire qu'il faut pas aller voir un psy, mais c'est quelque chose qui permet de garder le cap. Moi, je le dis à tout le monde, dès que ça va mal, il faut aller au sport, et déjà, ça va un peu moins mal.
C'est ça. Et au début, ça peut être dur, tu sais, quand t'es en bas, de commencer le sport, ça peut être un grand pas. Mais de se dire, bah, je vais faire une demi-heure de marche par jour au début.
Ouais, c'est
juste me balader une demi-heure. Mais je me l'impose tous les jours. Et après, bah, peut-être ça va se transformer en une petite course, peut-être Donc, ouais, c'est cool. Et depuis que je fais ça, depuis que j'ai instauré cette discipline, mais c'est là que ma carrière a décollé. Non, mais c'est pour ça que ça allait très vite. Tu me dis tout à l'heure, c'est vrai que ton parcours, ça allait super vite. Mais c'est parce qu'en fait, le monde des stand upers, c'est un monde où rares sont les gens disciplinés.
Oui.
Et Julien Vigne, aujourd'hui, s'il en est là où il en est, c'est parce que c'est quelqu'un de très discipliné.
Et encore une fois, on le rappelle, c'est aussi les artistes qui ont tendance à... Moi, je sais qu'on en parle beaucoup avec un ami humoriste qui s'appelle Sofiane. On en parle et il me disait, avant, les artistes, c'était des gens qui foutaient rien. Et du coup, tout le monde était artiste, mais tout le monde foutait rien. Et il y en avait un qui pétait de temps en temps. Il dit, maintenant, le problème, c'est que notre société, elle fait que les artistes sont devenus... travailleurs, bosseurs. Et du coup, il dit tout le monde travaille et du coup, ça nous challenge tous à travailler parce qu'on voit les autres et on se dit ah ouais, ils bossent beaucoup, il faut que je bosse moi aussi. Et il dit avant, on pouvait tous rien foutre ensemble et maintenant, pour ça, il n'y a plus d'alcooliques et tout. Il dit il n'y a que des bosseurs déterminés, disciplinés, quoi.
Mais c'est vrai, regarde, si tu regardes les humoristes aujourd'hui comme Gad Elmaleh qui a une carrière incroyable, ils ont tous arrêté de boire. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, je dors tôt.
Tous les grands humoristes, Artus, typiquement, là, Léa Salamé lui a dit qu'il était chiant, mais alors qu'il a expliqué que c'était la logique pour aller loin, en fait.
C'est exactement ça. Moi, je suis tombée au début dans les travers du stand-up. Hein. Tu joues tous les jours, t'as de l'alcool, petit verre de blanc, petite pinte, mais... ça commence à faire un jour, deux jours, sauf que tu commences à jouer tous les jours.
Ouais.
Et donc, tu fais la brinque avec les collègues, on se couche tous à 5h du matin, on se réveille en gueule de bois, comment tu veux évoluer? Heureusement que coach Sam, il m'a remis dans le droit chemin.
Il a dit ça, c'est non. Donc,
changé ma vie.
Ouais, écoute, on lui passe le salam, le salut. Et justement, est-ce que tu penses que cette approche comme un sport de combat du stand-up, ça a aussi marqué ou en tout cas formé ce que tu es sur scène aujourd'hui? Parce que comme tu le dis, des fois, tu n'as pas peur de diviser, tu n'as pas peur de prendre des risques, donc de prendre des coups. Hein, parce qu'il faut le savoir, une blague qui ne marche pas pour un humoriste sur scène, c'est l'équivalent de prendre une bonne tarte dans la face pour un humain normal. Est-ce que ça t'a justement renforcé ou en tout cas permis de tenir sur la longueur?
Oui, ça me donne beaucoup. Le parallèle entre la boxe et la scène, c'est, pour moi, c'est tellement similaire. Et tu vois, au début, tu as tendance à te dire... mes blagues, elles ne sont pas parfaites. Je vais attendre que ce soit parfait. Pour le spectacle, par exemple, je vais attendre que ce soit parfait avant de commencer.
Ouais.
Sauf que c'est comme la boxe. Comment tu veux devenir champion du monde si tu ne fais pas du sparring, si tu ne manges pas des coups? C'est la seule manière de progresser, quoi. Donc oui, on va manger des coups. Oui, ça va être dur parfois. Et parfois, on va gagner. Mais c'est le chemin nécessaire pour arriver... à la classe ceinture.
À la Ligue des Champions.
Ceinture des champions du monde.
Salima, on va se laisser avec une dernière question, mais non moins importante. Est-ce que tu peux me dire, toi, dans 10 ans, où tu te vois en tant qu'humoriste, mais aussi en tant que femme, en tant qu'humaine, où c'est que tu te vois dans 10 ans?
Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais tellement pouvoir répondre. Non, j'aimerais déjà dans ma carrière d'humoriste. Dans 10 ans, normalement, je pense que je serai aboutie. J'aurai fini le jeu, peut-être. Moi, j'adore
abouti,
changer.
C'est quoi pour toi? C'est des grandes salles? C'est un spectacle parfait devant 100 personnes? Ou c'est des grandes salles, c'est des zéniths? C'est quoi?
Pour moi, déjà, pouvoir vivre de ce métier, c'est déjà réussir. Maintenant, évidemment, que le jeu, tu le finis en faisant une tournée des zéniths, en étant reconnu par les plus grands, je sais pas. Ça, c'est pas, tu sais, c'est une bonne question. Et je pense aussi que j'aimerais bien faire du cinéma. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le jeu, j'aurai envie de commencer d'autres jeux. Mais je pense que le jour où je pourrai répondre à cette question, ce sera un temps où... Et je suis nulle, hein. Je suis nulle à cette question. Vraiment,
non,
tu m'as mis... Question existentielle, écoute, Je pense que si je savais où j'allais, je serais pas dans le stand-up aujourd'hui.
Ouais, magnifique. Bah écoute, là c'est de la punch, tu vois, ça allait mal. Non, écoute, c'était un plaisir de te recevoir ici dans les studios de Fréquence Mistral. On souhaite une longue vie à ton spectacle en rodage, puisqu'il est en rodage.
Ouais.
On peut te retrouver donc chaque semaine à la Grange Comédie, c'est bien
ça ?
C'est ça.
Tous les jeudis à 19h30 à la Grange Comédie Club, c'est Courgouffet.
Ouais, Courgouffet, à côté du rond-point de Castellane, pas loin de la brasserie Zuma ici.
Exactement. Oui. Donc, n'hésitez pas à venir me découvrir si vous aimez l'humour salé. Là, on est complet, je suis contente, on est complet là pour la semaine prochaine aussi.
Bah, félicitations.
Donc, prenez vos places à l'avance.
Ouais. Donc, c'est tous les jeudis à la Grange Comédie. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Salima Passion.
Ouais.
Et bah, Salima, c'était un plaisir de te recevoir dans les studios. On te retrouve dans 10 ans pour voir si tu as trouvé des réponses ou pas.
Ouais, allez, on fait ça, rendez-vous dans 10 ans. Et j'ai une petite demande là à ceux qui écoutent. Si vous m'avez entendu dans Fréquence Mistral, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et à me dire ce que vous avez pensé de l'interview.
Je vais t'envoyer un message en sortant en te disant que t'étais génial.
Merci beaucoup.
Excellente journée à toi.
Merci
excellente
tout
journée
monde.
À toutes et tous sur Fréquence Mistral ou ailleurs.